Le balado du programme de conseil professionnel et de soutien juridique se veut un partage des meilleures pratiques, trucs et astuces afin d'aider et d'outiller les directions et les directions adjointes dans leur gestion quotidienne. Régulièrement, l'équipe du programme de conseil professionnel et de soutien juridique aborde des sujets directement liés aux problèmes les plus fréquents et à des situations vécues quotidiennement par les directions d'école francophones en Ontario. L'ADFO espère que ces balados professionnels sauront aider toutes les directions et les directions adjointes, nouvellement nommées et expérimentées, à intégrer des pratiques exemplaires et ainsi éviter de se retrouver dans des situations fâcheuses.
Bonjour et bienvenue au balado du Leadership Éthique, une série spéciale développée par l'ADFO, l'OPC et le CPCO. Ensemble, on explore aujourd'hui ce que ça veut dire de diriger avec authenticité, à travers le prisme de l'identité, de l'équité, de l'inclusion et de la pleine participation de tous les élèves, y compris les élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée. Moi, je me nomme Gabriel Drouin. Je suis directeur des services consultatifs au Consortium Centre Jules Léger et fier membre de l'ADFO depuis déjà 15 ans. Et c'est un vrai privilège aujourd'hui d'animer cette série de balados. Pour rappeler le contexte à ceux qui nous écoutent, au cours du premier épisode de cette série, on a exploré en profondeur la connaissance de soi en tant que leader scolaire, nos identités, nos privilèges, nos biais. On s'est penché sur la grande question: qui suis-je comme leader scolaire? Dans le deuxième épisode, on a poursuivi cette réflexion en nous penchant sur les multiples façons de mieux connaître nos élèves, en reconnaissant que cette démarche commence par une compréhension de soi. Plus on se connaît soi-même, plus on est en mesure de créer des liens authentiques avec nos élèves. Pour notre épisode final de la série, on réfléchit à un enjeu essentiel: comment bâtir des environnements d'apprentissage vraiment inclusifs? On parle de milieux qui accueillent tous les élèves afin que nos milieux scolaires reflètent pleinement la diversité dans nos communautés. J'ai donc le plaisir de vous présenter nos panélistes en ce dernier épisode de cette série de balados. On commence dans le sud. Madame Josée Roberge, qui est directrice du service de l'éducation citoyenne et identitaire au Conseil scolaire catholique Mon Avenir. Nous avons Mme Jocelyne Chouek, la direction des services à l'élève du Conseil scolaire du Grand Nord. Mme Josiane Villeneuve, la direction au service pédagogique au Conseil scolaire du district catholique de l'Est ontarien. Et M. Yasser Boukrab, commissaire en équité et droits de la personne au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Bonjour à vous et merci d'être là. J'ai aussi le privilège d'accueillir Mme Nadia Rousseau, chercheuse, experte en inclusion scolaire, docteur en psychopédagogie et professeure titulaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières et directrice du Réverbère, un réseau de recherche consacré à la réussite et au bien-être des élèves en contexte de diversité. Nadia, merci d'être là. Notre premier thème à explorer aujourd'hui sera au niveau des considérations physiques, sociales et académiques. Quand on pense à créer ou à revoir nos espaces d'apprentissage, on ne peut pas passer à côté de la question de l'inclusion. C'est beaucoup plus que juste l'environnement physique. Il faut réfléchir à ce qui se passe sur le plan social, culturel, émotionnel et bien sûr pédagogique. Mais on doit faire attention, ces dimensions ne fonctionnent pas en silo, elles sont interconnectées. Par exemple, un élément aussi simple que la signalisation dans un bâtiment scolaire peut influencer l'inclusion sociale des élèves, sans même qu'on s'en rende compte. Alors, comment peut-on penser inclusion de façon globale en tenant compte de ces liens invisibles mais puissants entre les différents aspects de l'environnement scolaire? Une première question pour vous. Pouvez-vous partager une expérience où vous avez pris en compte les différents aspects de l'inclusion lors de la création ou de la révision d'un espace d'apprentissage? Et comment pensez-vous pouvoir continuer à progresser dans ce domaine à l'avenir et ainsi assurer des environnements encore plus inclusifs? On va commencer avec Mme José. À toi la parole.
Merci, M. Gabriel. Alors, un des projets qui m'a particulièrement marqué, c'était la création d'une salle dédiée à un groupe d'affinité pour les élèves de la communauté afro-caribéenne. Ça, c'était dans le contexte d'un programme que nous avons, c'est le programme des accompagnateurs pour les élèves noirs pour l'obtention du diplôme. Un des aspects clés a été la co-création, alors avec les élèves, d'un environnement qui était à la fois physique et aussi symbolique, qui représente et qui célèbre l'identité, la culture, l'histoire et les contributions des communautés noires. Alors, ce genre d'espace n'est pas seulement un lieu de rencontre, mais un espace où les élèves peuvent se sentir vus, entendus et valorisés. Alors, nous avons aménagé la salle avec plusieurs images, des œuvres d'art, des œuvres littéraires, des ressources pédagogiques et même des citations de modèles de la communauté afro-caribéenne. Ça rendait visibles les contributions des communautés noires. L'espace incarne vraiment la joie noire. Alors, on pourrait dire en anglais le Black Joy, mettant en avant la résilience et la créativité, la beauté des communautés noires, qui est souvent absent dans le cadre scolaire traditionnel. Alors, c'est un lieu où les élèves peuvent vraiment discuter des défis vécus, mais aussi partager leur histoire, s'inspirer, s'épanouir, nourrir leur fierté culturelle. Je dirais que la clé de la réussite réside vraiment dans la collaboration continue avec les élèves pour s'assurer que leurs besoins et leurs voix restent au centre de l'aménagement de ces espaces. Ça inclut aussi l'engagement du personnel scolaire et à soutenir ces initiatives à travers la formation continue, la sensibilisation au racisme systémique, à la justice sociale et le renforcement d'une culture scolaire inclusive. Alors, envisager ces espaces comme étant évolutifs, réactifs aux besoins et aux réalités des jeunes et comme des lieux qui sont vivants. La culture noire peut être célébrée et partagée. Ça serait un facteur central pour créer des environnements encore plus inclusifs.
Excellent. Merveilleux de pouvoir offrir cette occasion à vos élèves. On va continuer avec M. Yasser. En tant que commissaire en équité et droits de la personne, comment réagis-tu à cette question?
C'est une très bonne question. Merci, Gabriel. Donc, dans le cadre de mon mandat en tant que commissaire, qui me permet d'un peu de sonder le terrain auprès des parents, des élèves, toutes les parties prenantes, afin de cerner les enjeux en matière d'équité, d'inclusion et de diversité. Donc, il faut avouer que c'est un trio indispensable pour assurer un milieu éducatif d'apprentissage optimal, efficace et efficient, exemple de toute forme de barrière systémique, comme la discrimination, le racisme, l'intimidation. Mais dans le cadre de mes interventions auprès des parents et des élèves, j'ai réalisé aussi que l'accessibilité constitue aussi un pilier important et fondamental pour créer un milieu inclusif, car elle permet à tous les élèves ayant des besoins particuliers, indépendamment de leurs capacités physiques, sensorielles, cognitives, de participer pleinement à la vie scolaire et sociale. Donc, ça permet une égalité des chances dans les écoles pour assurer une participation active, apprentissage équitable, donc qui prend en considération les handicaps, que ce soit apparent ou non apparent. Donc, je considère que l'accessibilité est un accommodement qui garantit que chaque élève a accès égal aux ressources pédagogiques et opportunités aussi. Donc, sans oublier aussi les infrastructures, parce qu'on trouve dans certaines écoles, il y a un manque de rampes d'accès pour les élèves en fauteuil roulant, par exemple, du support visuel, auditif, par exemple. Donc, lorsque les obstacles sont enlevés, les élèves se sentent valorisés et soutenus dans un milieu d'apprentissage. Alors, dans le cadre de mes interventions en tant que commissaire dans ce domaine, donc je me vois progresser par la création d'un environnement plus inclusif, par la mise en phase tout d'abord sur la sensibilisation et l'éducation des directeurs, directrices et toutes les parties prenantes dans les écoles, équipes écoles et gestionnaires, par un strict rappel par rapport au cadre réglementaire tel que le Code de droit de la personne, la législation provinciale en matière d'accessibilité, et l'obligation aussi de s'y conformer. Donc, sans oublier aussi la sensibilisation aux défis qui font face certains élèves ayant des besoins particuliers au milieu éducatif. Donc, cela favorise une culture de respect et d'empathie, donc incitant chacun à réfléchir à ses propres comportements et préjugés. Pour promouvoir l'accessibilité, c'est défendre les droits de l'élève ayant des besoins particuliers, en faire respecter sa dignité, hein, en lui permettant de vivre son plein épanouissement dans l'école. Donc, en résumé, donc, l'accessibilité demeure essentielle pour bâtir un milieu d'apprentissage inclusif. Chaque élève peut participer. Donc, importance va au-delà des considérations, comme je le dis, physiques. Il nécessite un engagement collectif, dans un premier temps, de toutes les parties prenantes, l'équipe école, les parents, l'élève et administrateurs.
Donc, Madame Nadia, tes premières réactions peut-être?
Magnifique. J'ai beaucoup aimé là, les deux témoignages qu'on vient d'avoir. Puis déjà, moi, ça me met en lien avec des conditions favorables au développement d'un environnement éducatif inclusif, notamment tout l'espace inclusif, hein, la création d'espaces inclusifs. On l'a bien vu, là, qui promouvoit la diversité. On l'a bien vu dans l'exemple de Madame José. Dans cet exemple-là, là, on a vu la co-création, hein, de cet espace-là. Ça, c'est pas rien, là. Fait que déjà, ça nous met en lien avec toute cette importance de la collaboration. Puis dans les propos de M. Yasser, bien, encore une fois, on voyait, oui, la question d'accessibilité, mais au sens large, hein, accessibilité au curriculum, accessibilité à la collaboration, accessibilité à la participation sociale, accessibilité dans l'établissement même, au plan physique. Puis vous avez évoqué à quelques reprises, M. Yasser, toute la question de la collaboration pour assurer cette accessibilité-là. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment génial. Les pratiques collaboratives, c'est un pilier de l'éducation inclusive. Il ne faut vraiment pas l'oublier. Co-création d'un espace inclusif et de promotion de la diversité, je pense que c'est un des plus beaux exemples que j'ai entendus à ce jour.
Super! Ça commence bien. Ça nous mène maintenant à l'importance de bien définir le ton pour l'année scolaire. C'est pas toujours simple en tant que direction d'école, et parfois, ça se fait même sans qu'on s'en rende compte, malheureusement, car le ton peut être influencé par la complexité de la vie scolaire. C'est pourquoi c'est important que nos décisions soient prises de façon transparente, en tenant compte de l'équité, de l'inclusion et des expériences vécues par les élèves, le personnel et la communauté. C'est ce qui permet de créer un climat scolaire où tout le monde peut vraiment se sentir à sa place. La prochaine question est pour Mme Josiane. À partir de ton expérience sur le terrain, peux-tu nous raconter une situation où ton leadership a contribué à créer un climat scolaire vraiment accueillant pour tous les élèves et leurs familles? Un moment peut-être où tu as senti que ton milieu favorisait un réel sentiment d'appartenance dans l'environnement d'apprentissage.
Merci, Gabriel. Donc, je ne vais pas parler d'une expérience que moi j'ai vécue, mais je vais relater celle que j'ai observée chez une collègue dans notre conseil scolaire que j'ai trouvée fort inspirante, puis je désire avec vous partager cette expérience-là. Cet automne, c'est une école secondaire de la région de l'Est ontarien où les élèves ont été sondés par rapport à leurs besoins, leurs intérêts et leur vision de leur école. Donc, comme José et Yasser ont parlé tantôt, c'est important d'impliquer les élèves dans le processus décisionnel. Et l'activité était de réunir les élèves de tous les niveaux et ils ont demandé sans idée pour améliorer notre école. Donc, les élèves, par année d'études, ont sur des affiches, des surfaces blanches verticales, ont noté sans idée pour améliorer l'école qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qu'ils aiment de leur école qu'ils veulent maintenir, mais aussi qu'est-ce qu'ils aimeraient voir davantage. Donc, l'importance de donner la voix à tous les élèves. Donc, tous les élèves avaient la chance de participer et devaient y participer également. Et par la suite, donc ça s'est fait à l'automne, par la suite à l'hiver, les membres à la direction avec les membres du personnel ont mis en place les idées et en ont fait un peu comme le dévoilement aux élèves, de dire « Avez-vous remarqué? » Un peu comme le célébrons de nos succès. On vous a écouté, on a mis en application ce que vous aviez besoin pour que l'école soit encore plus bienveillante, inclusive et réponde à tous les besoins. Bien, dans la mesure de quelque chose qui est réaliste aussi, mais dans la mesure du possible pour les élèves. J'ai trouvé ça fort inspirant que l'école a autant donné la voix aux élèves et se sont rendus redevables à le faire. Parce que des fois, on écoute les élèves, mais est-ce qu'on réinvestit toujours ce qui nous est proposé? Des fois, il y a des contraintes. On est conscient de ça, il faut être réaliste. Mais s'il y a des changements à apporter, c'est quelque chose qui peut être bien. Et à cette même école-là, un autre exemple, ils ont construit un coin zen qu'ils appellent, les élèves ont nommé l'endroit le spot. Et là, ils ont même tout designé l'espace de ce local-là. Qu'est-ce qu'ils voulaient comme aménagement? C'est quoi les thématiques à chaque semaine? Qu'est-ce qu'ils veulent mettre de l'avant pour tous les élèves? Et c'est un lien de rassemblement où les élèves se sentent bien. C'est inclusif, tout le monde peut y aller, mais c'est un endroit où aussi on voit qu'il y a beaucoup de stratégies qui sont mises en place pour bien accompagner les élèves, soit ceux qui vivent avec de l'anxiété ou des élèves qui ne se sentent pas toujours bien dans le milieu scolaire, qu'une grande école, des fois, c'est un petit peu trop pour eux. Donc, de trouver des solutions pour vraiment être à l'écoute de nos élèves, je pense que c'est la clé. C'est important de le faire, d'en être conscient. Et des fois, c'est pas... ça ne demande pas énormément de ressources matérielles, mais juste de créer cet espace-là pour eux. C'est très symbolique, puis ça l'envoie aussi un message clair à la communauté scolaire que nos élèves ont une voix et qu'on va de l'avant avec leur initiative.
C'est très, très beau. J'adore le spot. J'adore les 100 idées pour améliorer notre école. C'est la super belle mobilisation. Et comme tu dis, Josiane, c'est tout un message que les élèves vont retenir et les parents également. Nadia, tes commentaires?
Comme toujours, hein, j'ai tout le temps des commentaires. Encore une fois, ce qui a été partagé par Josiane, c'est en parfaite cohérence. Là, ça résonne avec les données de recherche. À savoir que lorsqu'on mobilise la voix des élèves dans de la résolution de problèmes dans notre milieu scolaire, non seulement on arrive à créer des espaces plus inclusifs, mais on arrive à créer un espace où les élèves habitent l'école. Je vais utiliser ces mots-là, là, habitent l'école, et ça a beaucoup d'incidences, hein? Engagement scolaire, motivation, amélioration au niveau des apprentissages, la pensée critique, de la communication, confiance en soi, estime de soi. Fait qu'il y a tout un pan de recherche qui parle que parfois, aller chercher la voix des élèves, puis Josiane a bien insisté, hein, tous les élèves permet de trouver des solutions simples auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé. Le point important, puis Josiane l'a aussi évoqué, c'est la prise en compte de leur opinion. Parce qu'aller chercher la voix et ne pas l'utiliser, bien, on peut créer l'effet inverse. Donc, un autre bel exemple là, en parfaite cohérence.
Super. Donc, c'est un beau tremplin pour parler de notre leadership maintenant, notre leadership pédagogique. On veut en apprendre davantage sur des moyens que la direction peut soutenir son équipe afin que chaque élève ait ce dont il a vraiment besoin pour apprendre et réussir. La question pour vous. Pouvez-vous nous partager comment, concrètement, vous avez travaillé avec le personnel pour vous assurer que chaque élève dispose de ce dont il a vraiment besoin pour apprendre et réussir? On va commencer avec José.
Merci, Gabriel. Alors, je vais vous partager un projet systémique qu'on a fait sur l'humilité culturelle. Alors, pour créer un environnement qui est véritablement inclusif, c'est vraiment essentiel que chaque membre de l'équipe vive un parcours d'introspection. Ce processus permet à chaque personne de comprendre des concepts comme le racisme systémique, la discrimination au sein du système éducatif, et vraiment prendre conscience de ses propres biens implicites, de sa position par rapport au pouvoir et aux privilèges, et de l'impact que cela peut avoir sur ses pratiques pédagogiques. Alors, une fois que cette prise de conscience est effectuée, ça devient beaucoup plus possible de passer à l'action et d'appliquer des stratégies concrètes pour soutenir chaque élève dans son apprentissage. Alors, pour accompagner ce processus, nous avons mis en place une série d'ateliers sur l'humilité culturelle. Alors, ces ateliers ont été structurés autour de mini-capsules qui ont été données pendant des réunions du personnel, qui ont abordé les thèmes dont j'ai mentionné. Alors, le racisme systémique, la discrimination, les biens implicites, l'intersectionnalité, le pouvoir et le privilège dans le milieu scolaire. L'objectif, c'était de donner au personnel scolaire les outils nécessaires pour identifier leurs propres biais et comprendre comment ces derniers influencent leur manière d'enseigner et d'agir avec les élèves. Alors, on a exploré plusieurs mises en situation. Le personnel a pu réfléchir sur des situations concrètes qui arrivent dans leur école. Ils ont été capables d'identifier des déséquilibres de pouvoir, de discuter de stratégies pour rectifier justement ces situations. Alors, ça a permis de nourrir une pédagogie qui était plus sensible à la culture et à l'intersectionnalité des identités, afin que chaque élève se sente respecté, compris, soutenu. Alors, une approche d'introspection et d'action est vraiment cruciale pour favoriser un environnement où chaque élève peut véritablement réussir.
J'aime beaucoup ça. Réflexion plus action. C'est merveilleux ça. Puis merveilleux que vous avez pu faire aussi au niveau systémique dans toutes vos écoles. Tu conseilles. Bravo. Merci. Et Josiane, comment as-tu vécu ce leadership?
Et moi aussi, j'abonde dans le même sens que José. La prise de conscience pour les membres du personnel est essentielle. On veut faire une genre de fractal, c'est-à-dire on veut que les membres du personnel puissent vivre des occasions d'apprentissage, de conscientisation pour essayer de mieux appuyer possible les élèves par la suite. Donc, comme Gabriel, tu le mentionnais, le ton qu'on va établir dès la rentrée est essentiel. Il faut passer des messages clés. Et je pense que comme direction d'école, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est de développer le sentiment d'autonomie, de compétence et d'appartenance. Dans un premier temps, chez les membres du personnel, les gens doivent être fiers de leur milieu. Puis d'un petit peu comme on a parlé précédemment, il faut se mobiliser, savoir identifier quels sont les défis et quelles solutions on peut mettre en place. Et ça, je pense que c'est une culture qu'il faut savoir construire dans notre école puis l'apporter jusqu'à nos élèves. Donc, des fois, nos élèves vont soulever des défis ou des problématiques qu'on n'est pas conscient, des fois, comme adultes, parce qu'on ne le vit pas de la même façon qu'eux ou on n'est pas toujours dans les mêmes espaces qu'eux à l'école. Mais de savoir développer cette culture-là d'écoute et d'action, je pense que ça nous aide dans un premier temps à être proactifs puis à adresser des situations qui sont nécessaires à adresser dans nos écoles. Je pense que, comme qui a été précédemment dit aussi, c'est important de connaître le profil de nos élèves, d'apprendre à les connaître, de voir quels sont leurs intérêts, leurs besoins, leurs défis aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se mobiliser pour bien y répondre? Je pense que ça vient, c'est la base de tout ce qui est la conception universelle d'apprentissage, la différenciation, c'est d'être à l'écoute, d'apprendre à se connaître, connaissance de soi et des autres.
Merveilleux. Nadia, tu aimes ce que tu entends?
J'aime tout ce que j'entends. Ça nous ramène à, je disais tantôt, je crois, il y a deux grands piliers. Hein, c'est transversal à l'éducation inclusive. Un des grands piliers, c'est les pratiques collaboratives. Et l'autre grand pilier, c'est le regard sur soi et sur les autres. Puis là, dans les deux exemples qu'on donne, on rattache ce pilier-là à la culture institutionnelle hein, en réfléchissant ensemble, mais le fait de réfléchir ensemble, ça crée du lien, ça, dans notre milieu scolaire. On a eu la même vidéo, on a réfléchi à nos propres croyances, nos propres valeurs, nos propres identités, nos préjugés, mais j'imagine qu'il y a des discussions qui s'en suivent, mais c'est ça le lien. Puis finalement, ça nous ramène à un grand constat là, de l'éducation inclusive ou de l'école inclusive. Quand on travaille pour tous les élèves, on est constamment nous-mêmes en position d'apprentissage. On est des apprenants à vie, à la lumière des transformations de la société, des nouveaux enjeux qui se lèvent. Alors, ça ne nous place plus dans une posture
où on enseigne à l'élève. Je pense que ça nous place vraiment dans une posture où on doit apprendre les uns des autres pour faire en sorte qu'on arrive après à soutenir l'apprentissage des jeunes.
C'est une nouvelle posture. J'aime beaucoup ça. Notre prochaine thématique regroupe les ressources personnelles nécessaires pour assurer un leadership efficace. Donc, comme c'est présenté dans le cadre de leadership de l'Ontario, les ressources personnelles en leadership, y compris les ressources cognitives, sociales, psychologiques, font référence, entre autres, à la capacité de la direction d'école à résoudre des problèmes, à la pensée systémique, à la perception et à la gestion des émotions, à la résilience et à la proactivité. Clairement, ces ressources personnelles peuvent avoir une influence sur l'environnement d'apprentissage de nos élèves. Donc, dans un premier temps, la question pour Mme Jocelyne. Peux-tu nous raconter un moment marquant de ton parcours en tant que leader? Un moment où tu as puisé dans tes ressources personnelles pour bâtir des relations solides avec les élèves, le personnel ou les familles. Comment cette expérience a-t-elle contribué à créer un environnement vraiment inclusif où chaque élève est reconnu pour sa valeur, son potentiel et ce qu'il apporte à la communauté scolaire? Jocelyne, à toi la parole.
Merci, Gabriel. Donc, un moment important pour moi, c'était vraiment début de carrière lorsque j'étais en direction par intérim dans une nouvelle école. Où est-ce que je devais premièrement apprendre à connaître la communauté scolaire, le personnel et les élèves. Et en même temps, je devais gérer une situation avec un élève qui ne fonctionnait pas très bien en salle de classe. Il éprouvait énormément de difficultés à s'autoréguler, ainsi que des difficultés à compléter ses tâches. Donc, pendant que je créais ce lien-là avec les élèves, je devais prendre un petit peu plus de temps avec lui afin d'apprendre davantage qu'est-ce qui se passait, hein, ce qu'il aimait, pourquoi qu'il avait des difficultés en salle de classe. Et c'est en ayant ces discussions-là qu'on a pu vraiment établir qu'il y avait de l'anxiété, il éprouvait des difficultés académiques. Donc, j'ai par la suite eu des conversations avec l'enseignante afin de comprendre qu'est-ce qui se passe en salle de classe, comment l'appuyer. Et ensuite, on est passé à des équipes écoles. C'était super important dans le temps pour moi d'avoir tout le monde autour de la table. Parce que c'est ensemble qu'on a pu vraiment établir les difficultés et les solutions possibles. Donc, avec le parent à la table, avec les différents spécialistes du conseil. Donc, dans le temps, on avait aussi l'équipe de comportement qui travaillait avec nous. Et puis, c'est en ayant ces conversations-là qu'on a pu voir un peu de réduction de comportement, mais pas suffisamment pour que ça soit fonctionnel dans un milieu d'apprentissage. Donc, c'est là où on a dû même faire appel à des agences communautaires. Et on a eu l'appui de différentes agences qui sont venues à la fois à l'école pour appuyer l'école, mais aussi à la maison pour appuyer la famille. Donc, c'était vraiment important pour nous d'avoir ce portrait-là pour l'élève, pour qu'il se sente bien et qu'il se sente inclus dans sa salle de classe et pour qu'il réussisse davantage en salle de classe avec ses pairs.
Excellent. Donc, j'aime beaucoup ta vision que chaque élève vraiment a sa place dans la salle de classe, puis aussi le rappel que le comportement a toujours une fonction. Merci, Jocelyne. On va passer à M. Yasser.
Merci.
M. Yasser, comment vois-tu l'importance des ressources personnelles pour les directions en province dans la création d'environnements vraiment inclusifs?
Donc, dans un premier temps, je pense que dans tout cela, dans ce cadre, il faut prendre en considération que la diversité accrue que connaît le secteur d'éducation, il s'avère très important que de développer le leadership des directions par rapport à la gestion des droits des élèves qui se heurtent. On parle de la conciliation des droits contradictoires, et la diversité sous toutes ses formes, donc l'équité, l'inclusion dans la prise des décisions. Personnellement, dans le cadre de mes fonctions, j'interviens auprès de direction d'école pour les aider à gérer certaines situations portant sur la conciliation de ces droits contradictoires qui se heurtent. J'interviens auprès des élèves, pour les parents, pour les éduquer et les sensibiliser par rapport à leurs droits, à leurs obligations, la matière. Et je joue au rôle aussi de médiateur, de conciliateur. Donc, je vous donne une situation auxquels j'ai fait face dans le milieu scolaire. Donc, les droits d'expression exprimés par un élève fondé sur ses croyances qui a créé un climat de tension avec d'autres élèves qui se sont discriminés. On voit tout à fait que c'est un élève qui a le droit de s'exprimer en vertu de la Charte des droits et libertés, mais cela entre en conflit avec le droit des autres élèves selon les motifs protégés par le Code des droits de la personne de l'Ontario. Et donc, compte tenu que c'est un environnement exempt de toute forme de discrimination, c'est d'où la nécessité de concilier ces droits contradictoires. Donc, l'approche, c'était d'intervenir auprès de l'école, d'accompagner la direction d'école dans la gestion de ce cas, par le biais des ateliers de sensibilisation aux élèves, par rapport au respect des différences religieuses, établir des règles claires sur la façon d'exprimer ses opinions de manière appropriée. Donc, j'avoue que c'est un sujet complexe, qui nécessite un équilibre entre divers principes et intérêts, donc en prenant en considération plusieurs éléments. Donc, ce qui est important, c'est une bonne compréhension du cadre réglementaire et administratif du conseil scolaire. On parle de la Charte des droits et libertés, on parle du Code des droits de la personne et on parle aussi des politiques et des procédures du conseil scolaire. Alors, l'important, c'est de concilier ces droits. Quand on parle des droits des élèves, les élèves ont des droits individuels, le droit d'exprimer leurs opinions, accéder à un environnement d'apprentissage respectueux et inclusif. On a aussi des droits des parents, on trouve aussi dans les écoles, qui ont le droit aussi de s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants, mais en même temps aussi parfois entrent en conflit avec les droits des élèves. Donc, notamment en matière de consentement, surtout si on parle de l'accommodement fondé sur la religion, l'accommodement fondé sur en lien avec le genre, l'expression du genre. Donc, c'est un exemple. Par exemple, le droit des enseignants en salle de classe. Et ils ont l'autorité aussi d'exercer leur profession dans un environnement qui respecte leur profession. Mais en matière, devant la diversité accrue dans les classes, ils ont de la difficulté parfois à gérer des situations qui se trouvent en conflit ou des droits contradictoires. Je pense que la conciliation demeure dans un milieu éducatif un élément qui requiert une approche équilibrée, axée sur la communication, la médiation, la prévention des conflits, afin de créer un environnement favorable pour tous les acteurs impliqués. Merci.
Merci. Donc, très important au niveau du conseil scolaire d'avoir ces balises-là disponibles pour les directions. C'est merveilleux d'avoir cet appui-là pour les directions. Madame Nadia, des commentaires?
Bien, j'ai comme envie de faire du pouce sur certains concepts qui ont été évoqués par M. Yasser, notamment la complexité. C'est complexe avoir une école inclusive. et c'est complexe parce qu'on vit dans une société qui est complexe. Puis dans ce qu'on vient d'entendre, on voit il y a à la fois des lois, les politiques, les documents cadres, mais il y a les réalités des familles, les réalités des personnes. Vous avez évoqué toute la question des croyances, des préjugés, des privilèges. C'est très complexe, puis je m'amusais avant notre rencontre d'aller voir les écrits les plus récents sur toute la question de l'administration puis des gestionnaires pour une école inclusive. Puis je vais juste vous donner quelques mots que j'ai sortis. Les travaux arrivaient à la conclusion que maintenant, ça prend des leaders particulièrement bien formés, des leaders compétents, mais des leaders aussi soutenus. Alors, autant il faut soutenir les autres dans l'appropriation de cette nouvelle réalité, autant il faut quelque part qu'on soit soutenu. Puis je trouve que quelque part, ça nous ramène encore une fois, ou même dans un rôle de gestionnaire, on est aussi en posture d'apprentissage et de réajustement, puis on doit travailler ensemble, on doit travailler en collaboration.
C'est merveilleux. C'est tellement énergisant voir une équipe mobilisée autour de la réussite de l'élève. Donc, quand tout le monde avance dans la même direction, l'école, les familles, les partenaires, on crée un réseau puissant autour de nos élèves et c'est cette mobilisation collective qui fait toute la différence. Donc, avant de conclure cet épisode et cette série, Nadia, je t'invite à nous partager quels sont, selon toi, les apprentissages ou les messages forts à garder en tête en tant que leader qui exerce leur leadership de manière authentique, inclusive et éthique.
Je me sens un peu privilégiée d'avoir à faire ce tour-là, mais en même temps, je suis certaine que Yasser, José, Josiane, Jocelyne pourraient le faire autant que moi. Mais moi, je retiens de notre discussion. Oui, la complexité, mais les victoires, puis les bons coups. Je pense que dans ce qui a été partagé aujourd'hui, on arrive à saisir tout le sens de célébrer la diversité. Dans les années 90, quand on faisait de la recherche sur l'éducation inclusive ou l'inclusion scolaire, on disait souvent dans les recommandations, on doit célébrer la diversité, on doit célébrer la diversité, mais je ne pense pas qu'on avait vraiment le sens de tout ce que ça pouvait vouloir dire. Puis je trouve qu'aujourd'hui, quand on fait référence, par exemple, à la co-création d'un espace pour les communautés noires où on va aller valoriser, où on va avoir de l'art, hey, on est en train de la valoriser concrètement. Puis quand on a réussi à faire ça en collaboration, on a quelque chose à célébrer. Alors, je trouve que dans tous les exemples qui ont été donnés aujourd'hui, on voit qu'en travaillant ensemble, avec humilité, avec respect, puis reconnaître qu'on ne sait pas tout, puis reconnaître que les réalités sont multiples. Je pense que c'était vraiment ça, l'idée du premier et du deuxième balado aussi, de regarder un regard sur soi, mais en même temps, comment notre regard sur soi vient colorer notre regard sur les autres. Bien, je pense qu'on est rendu à célébrer. Je pense qu'on est rendu à célébrer, à mettre de l'avant nos bons coups, puis à s'inspirer de ça pour poursuivre dans cette lignée. Puis permettre, pas juste aux gestionnaires, mais à l'ensemble des acteurs de l'éducation de célébrer devant ces belles réalisations. Puis des fois, bien, c'est dans la célébration qu'on arrive après à relever le prochain défi parce qu'on s'en sent capable.
Un énorme merci à toi, Nadia Rousseau, pour ta présence au cours des trois épisodes et pour tes réflexions aujourd'hui, toujours aussi éclairantes. C'est un vrai privilège de pouvoir compter sur ton regard d'experte pour enrichir ces échanges. Merci aussi à nos panélistes. Votre authenticité, vos exemples concrets, votre courage de les partager témoignent de votre passion pour l'inclusion et ont semé des idées inspirantes pour nos collègues partout en province. Et merci à vous qui nous écoutez. On espère que les réflexions partagées aujourd'hui et depuis le début de cette série vous accompagneront dans votre propre démarche de leadership et qu'elles nourriront vos actions au quotidien. Merci de faire partie de cette communauté engagée pour un leadership plus inclusif, plus éthique et toujours centré sur les élèves. Je me nomme Gabriel Drouin et merci d'avoir été là.
Le contenu et les informations présentées dans ce balado ont pour unique but de diffuser de l'information générale à nos cotisantes et cotisants. Ils ne visent pas à exprimer une opinion ni à offrir des conseils juridiques ou pratiques et ne doivent pas être interprétés de la sorte.